Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la mort subite du sujet jeune. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Vincent Prost. Professeur Prost, bonjour.
Bonjour.
Professeur Prost, vous êtes cardiologue au sein de l'Institut du Thorax du CHU de Nantes, coordonnateur du Centre de référence des maladies rythmiques cardiaques de l'Ouest sous l'égide de la filière cardiogène. Et vous avez également coordonné le récent PNDS sur la prise en charge d'une mort subite du sujet jeune. Alors avec vous, professeur Prost, nous allons particulièrement aborder le diagnostic étiologique chez le sujet décédé et sa famille. Et pour débuter notre entretien, quel message donner à une famille qui vous annonce que quelqu'un de jeune est décédé ?
Alors, c'est effectivement une situation qu'on est amené à rencontrer parfois. Les médecins qui sont amenés à rencontrer cette situation sont très variables, hein, puisque ça peut être les cardiologues, mais ça peut être aussi les médecins généralistes. Et je crois que le premier message, c'est de dire qu'en face d'une mort subite d'un sujet jeune, alors ce qu'on appelle un sujet jeune, c'est un sujet de moins de 45 ans, quand il n'y a pas eu d'autopsie après le décès. Mais en face de la mort subite d'un sujet jeune, il est important d'essayer d'évaluer la cause de cette mort subite, puisque un chiffre important à retenir tout de suite, c'est que quand on va faire l'évaluation, dont on va sûrement discuter ensuite ensemble, on va parvenir à identifier la cause de la mort subite dans 20 à 30% des cas. Et ça, ça va être important parce que ça va permettre d'expliquer à la famille ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose d'inexplicable, d'inacceptable, à on peut apporter des causes et la raison pour laquelle il y a eu l'accident qui permet d'aider la famille à comprendre ce qui s'est passé, du coup, au final, à mieux l'accepter. Et comme je disais juste avant, ça, on arrive à obtenir des résultats dans à peu près 30% des cas. Donc, vraiment, le message, c'est de dire qu'il faut consulter auprès de spécialistes de la mort subite pour que le bilan complet puisse être réalisé.
Et justement, quel bilan réaliser et pour qui ?
Alors, le bilan qu'on va réaliser, en fait, on est dans le cas où, évidemment, le sujet est décédé. Donc, il y a eu une autopsie ou il n'y a pas eu d'autopsie de réaliser et on va chercher à essayer de trouver la cause de cet accident par l'évaluation de la famille. La famille, ça va être dans un premier temps les apparentés du premier degré, donc les frères, les sœurs, surtout les parents, puisque ce sont les parents qui vont apporter le plus d'informations, et puis éventuellement les enfants en fonction de leur âge. Le bilan qu'on va proposer dans ces cas-là, pour que ce soit efficace, le bilan va être un bilan complet qui va comprendre, quand c'est possible, l'analyse génétique qu'on pourra réaliser chez le sujet décédé. Si on peut disposer d'ADN de ce sujet, en fait, c'est souvent le cas parce que très souvent, il y a des prélèvements de sang qui ont été faits pour des évaluations diverses et variées. Et on arrive à récupérer le sang du sujet décédé et donc pouvoir faire les analyses génétiques. Et puis, ça va être l'évaluation clinique des membres de la famille, donc les apparentés du premier degré en première intention, avec un bilan qui, pour être efficace, devrait être complet et devra comprendre une évaluation cardiologique complète, incluant une échographie cardiaque, un électrocardiogramme, une épreuve d'effort, et assez volontiers, surtout lorsqu'il y a des petits signes sur les électrocardiogrammes qui sont en faveur, des tests tels qu'un test à l'agmaline ou un test à l'adrénaline, pour chercher à aller démasquer des pathologies qui ne sont pas visibles spontanément sur les différents examens. On peut évidemment aussi, en fonction de ce qui est identifié, compléter avec des examens plus spécifiques, comme une IRM cardiaque par exemple, en fonction du premier bilan. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que pour que le dépistage soit efficace et qu'il puisse apporter des réponses, il doit être fait chez tous les apparentés du premier degré. Plus on va pouvoir dépister de personnes, plus on aura de chances d'identifier la cause de l'accident, et en particulier lorsqu'on peut faire l'évaluation chez les deux parents, puisque s'agissant de maladies génétiques, on s'attend à ce qu'on puisse retrouver la pathologie chez responsable de l'accident chez un des deux parents. Et d'autre part, comme je le disais, ce bilan il doit être complet, puisque si on se contente de faire ce qui est fait assez volontiers, juste une échographie et un électrocardiogramme, ça, les différentes études qu'on a pu faire ont bien démontré que cette approche-là n'est pas suffisante et a une très faible rentabilité. L'analyse génétique qui est faite chez le sujet décédé, elle portera sur l'ensemble des gènes qui sont impliqués dans la mort subite. On a des panels de gènes qui permettent de faire ça. Et on ne fera les analyses génétiques chez les membres de la famille que soit si on a identifié une anomalie génétique chez le sujet décédé, qu'on pourra tester dans la famille, soit si on a pu identifier une maladie particulière chez les membres de la famille, où là, dans ce cas-là, on va aller faire une recherche génétique ciblée sur cette pathologie.
Et jusqu'à quel niveau d'apparenté est-ce qu'il faut réaliser un bilan au sein de la famille ?
Alors, évidemment, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a identifié dans la famille, mais en général, on propose de faire ce qu'on appelle un dépistage en cascade. C'est-à-dire que si on a pu voir les apparentés du premier degré, et si on n'a rien trouvé chez les apparentés du premier degré, on s'arrêtera là. Par contre, et on pourra donner comme message à la famille qu'il est peu probable que la mort soit d'origine génétique. Et donc, il y a peu de risques que d'autres membres de la famille puissent avoir le même type d'accident. Si par contre, on a pu identifier une pathologie dans la famille, par exemple chez un des deux parents, ben là, on va essayer de compléter le dépistage. C'est les autres apparentés, donc typiquement, par exemple, si on a trouvé une pathologie chez le père du sujet décédé, ben on va voir les frères et sœurs du père et ensuite redescendre en fonction de ce qu'on a pu identifier chez les descendants. Le message important quand même à transmettre, c'est que, évidemment, quand on fait ce type de dépistage, ça peut être un peu angoissant pour la famille, puisque on va aller rechercher chez eux des pathologies qui peuvent être à l'origine d'accidents cardiaques. Le message important, c'est de dire que, ben d'abord, dans ces cas-là, s'ils ont dit quelque chose, une pathologie particulière, elle était déjà présente. Et donc, finalement, on ne fait que voir quelque chose qui existait, et que par ailleurs, ce sont des pathologies pour lesquelles on a des traitements, on sait les soigner, et on sait empêcher la mort subite quand on l'identifie. Donc, un message important, c'est vraiment de dire que si on ne trouve rien, c'est rassurant et ça permettra en particulier pour les sujets qui ont un bilan complet d'être rassurés sur leur propre risque d'accident. Et si on trouve quelque chose, ben c'est très bien aussi puisqu'on va pouvoir mettre en place des préventions.
Et une fois les résultats obtenus, professeur Prost, quel accompagnement est-ce qu'on peut proposer aux familles ?
Alors, c'est vrai que comme je le disais juste avant, ça peut être un peu violent ce dépistage puisqu'on va aller dans une famille où est survenue une mort subite d'un sujet jeune, aller évaluer la famille pour essayer de trouver la cause de la mort subite. Ça veut dire qu'on va être amené, si on identifie la cause, à dire à un des deux parents que c'est la pathologie dont il est porteur et dont il ne se savait pas porteur, qu'il a transmis à son enfant, qui a causé la mort de cet enfant. Et que potentiellement, d'autres membres de la famille sont également porteurs de la même anomalie avec le même risque de survenue de mort subite. Donc évidemment, ça va nécessiter un accompagnement psychologique. D'abord, l'accompagnement psychologique sera fait par l'équipe médicale et par un médical qui prend en charge le patient et la famille, puisque les explications médicales qu'on va pouvoir donner seront déjà une aide psychologique majeure. Et si ces explications ne sont pas suffisantes ou si la famille en a le besoin, ce qui arrive assez fréquemment évidemment dans ces cas-là, on va proposer un accompagnement psychologique à l'ensemble de la famille pour les aider d'une part à faire le travail de deuil et puis d'autre part à accepter cette situation nouvelle où on va être amené à expliquer qu'effectivement il y a une pathologie particulière dans la famille qui a été transmise et qui a été à l'origine de l'accident. À côté de l'accompagnement psychologique, il y a évidemment un accompagnement médical qui est majeur pour bien expliquer quelles sont ces pathologies, quels en sont les risques, comment on va faire la prise en charge et ensuite, bien sûr, adapter la prise en charge, puisque un message vraiment très important qu'il faut que les familles comprennent bien, mais en général, quand on l'explique, elles le comprennent parfaitement bien, c'est que on va avoir des solutions à proposer, et pour la plupart de ces pathologies, les solutions thérapeutiques à proposer sont des solutions qui sont assez simples et très efficaces. On diminue de façon considérable le risque de mort subite, et donc cet accompagnement devra vraiment être à la fois psychologique et médical, à la fois pour un soutien psychologique, mais également sur la prise en charge médicale pour bien expliquer quelles sont les approches thérapeutiques qu'on va proposer et quel va en être le bénéfice pour la famille.
Eh bien, merci mille fois, professeur Prost, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la mort subite du sujet jeune. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.